Quatrième partie. Nuit d'encre. 27. 19h23. Nom, Maal. Prénom, Alpha. Né le 20 mai 1999 à Oujda, Maroc.
T'es plutôt grand pour ton âge,
commenta Pétard en parcourant une nouvelle fois l'état civil du garçon assis dans le bureau de la brigade.
Mais apparemment, ça ne t'empêche pas de faire des conneries.
Ryan se tenait debout à côté du commandant et avait revêtu pour l'occasion un impeccable uniforme bleu marine. Jusqu'à présent, l'adolescent n'avait opéré aucune résistance, ni lors de son arrestation, ni lors de son transport en fourgonnette, et encore moins depuis qu'il était interrogé par les deux policiers. Il n'avait pas davantage coopéré qu'il n'avait résisté. Il s'était montré obéissant comme un ado que ses parents emmerdent et qui répond par onomatopée, sans jamais se départir de son petit sourire aux lèvres. Pétard et Ryan allaient et venaient devant Alpha, assis au fond de la pièce. Derrière son ordinateur, dans le coin opposé, Julot observait, écoutait, pas forcément très concentré sur les monologues de Pétard et Ryan rythmés par les hochements de tête dociles d'Alpha et parfois un « oui » ou un « non » arraché en ponctuation d'une intervention se terminant par une question. Le regard du lieutenant Flores papillonnait vers les deux flics, le suspect, suspecté de quoi, il l'ignorait toujours. Le poster aux flamants roses de l'étang de Vacarès, et dans le dos des policiers, un grand écran de télé accroché sur un mur de la pièce d'en face et visible à travers la baie vitrée. Les fonctionnaires, en compensation de leurs heures supplémentaires, l'avaient laissé allumer. Soir de foot. Astra Giorgio Olympique de Marseille. Julot avait appris à l'occasion que l'OM jouait le match retour des 32e de finale contre une charmante bourgade roumaine baignée par le Danube à la frontière bulgare. Au moins, le foot aidait à réviser sa géographie. Le jeune Alpha, quand il cessait de hocher la tête, tirait le coup. Visiblement, il s'intéressait davantage au score du match qu'au sermon des policiers. « De la prévention », avait insisté Pétard, comme s'il était payé au nombre de fois qu'il placerait le mot dans la journée. « Uniquement de la prévention ».«
Cause toujours, mon commandant », s'amusait Julot.
Le gamin de près de 2 mètres était parfaitement conscient que les flics ne détenaient aucune preuve contre lui, pas même une miette de shit séchée dans sa poche. Juste une dénonciation. Julot doutait de l'efficacité du numéro de Pétard et Ryan, pourtant bien rodé. Le commandant insistait sur les statistiques. Il n'y avait guère de place pour les auto-entrepreneurs dans le milieu. La concurrence était féroce et radicale pour les apprentis passeurs comme pour les apprentis dealers. Il pouvait en citer par dizaines des jeunes de son profil, des beaux gosses bodybuildés avec des cuisses et des bras épais comme des troncs d'arbres qui, à cause d'une simple balle de 6 mm entre les deux yeux, ne profiteraient jamais de la fin de leur abonnement annuel à la salle de fitness. Et encore moins des gonzesses. Ryan, lui, jouait les curés, ou les imams, convoquait les grands frères, bref, on appelait à la morale, aux centaines de familles noyées en Méditerranée depuis le début de l'année, qui pourraient être ton oncle, ton cousin, ta sœur, ton père. Citait les célébrités qui condamnaient ces marchands de faux espoirs, Youssoundour, et toute une série de stars du rap, du foot et du rail que Julot ne connaissait pas. Pétard acquiesçait, écoutait et relançait. L'énergie de son patron surprenait Julot. Pétard ne l'avait pas habitué à tant de compassion. Il lui donnait l'impression d'être en mission commandée. Un commercial qui vend jusqu'au bout sa soupe à un client entêté qui ne l'achètera pas, simplement parce qu'il sait que la conversation va être enregistrée. Étrange. Le suspect se contentait de se tortiller sur sa chaise chaque fois que Ryan et Pétard bougeaient, pour ne pas perdre des yeux l'écran de télé. Surtout Pétard, d'ailleurs, 2 fois plus épais que le lieutenant Elfassi.
« Alpha Maal, dis, tu m'écoutes ?»
Oui, il écoutait, avec l'attention d'un ado qui, pendant que le proviseur fait la morale, regarde par la fenêtre les filles passer dans la cour du lycée. « Alpha Maal. » Julot répétait dans sa tête ce nom et ce prénom. Un détail le troublait depuis plusieurs minutes, mais il n'arrivait pas à l'identifier. Une connexion avec quelque chose qu'il avait vu ou lu ou entendu il y a peu de temps, mais qui ne lui revenait pas. Tant pis. Julot se pencha sur son écran. Un immense coquillage s'affichait toujours en pleine page, ainsi que la photo de la tour de la BCEAO de Cotonou. Il avait au moins résolu l'énigme du rapport entre ces coquillages des Maldives et le système bancaire de l'Afrique de l'Ouest. Il lui avait suffi de quelques clics, une fois revenu à la brigade. La solution portait un simple nom, les Cori. Même si cette information ne l'avançait pas davantage sur les raisons de la présence de ces coquillages dans la poche de Valioni. Il avait besoin d'en savoir davantage que ce qu'en racontait Wikipédia. Il aurait aimé en parler à Pétard, mais il ne voyait pas comment interrompre la leçon d'éducation à laquelle il assistait et il n'avait aucune envie d'attendre l'interclasse. Il continua de surfer sur son ordinateur et trouva rapidement le nom du meilleur spécialiste de la question, Mohamed Toufik, professeur d'histoire contemporaine africaine. 3 ouvrages sur la colonisation et la décolonisation, une liste de 10 pages d'articles dans des revues d'histoire, une page Facebook avec l'ensemble de ses références scientifiques et un email pour le contacter. Les profs d'histoire n'étaient plus les fantômes des archives qu'il imaginait. Quelques instants plus tard, il envoya un message électronique à Mohamed pour lui demander un rendez-vous en urgence, espérant que le professeur d'université soit aussi réactif qu'il était connecté. L'universitaire devait tout de même recevoir moins de messages qu'une star de la télé-réalité. Un bruit de dossier posé avec violence sur une table le fit sursauter. Pétard venait de laisser tomber de tout son poids la liste des exécutions et règlements de compte depuis le début de l'année.
« Que fait-on alors, Alpha Mâle ?» scandait le commandant. « Qu'allez-vous faire si on vous relâche dans la nature ?»« Répondez à cette simple question. Où se retrouve-t-on la prochaine fois ? À la morgue ? Dans un filet de pêche au milieu de la Méditerranée ?»
Julot continuait de penser que son supérieur en faisait trop. Mais pourtant, une autre question le taraudait, entêtante, insaisissable. Ce prénom, Alpha, ce nom, Mâle. Si seulement Pétard s'arrêtait de hurler une seconde, peut-être parviendrait-il à faire fonctionner sa mémoire. Il n'arrivait pas à localiser son souvenir parce qu'il avait la curieuse impression de l'avoir à la fois lu et entendu, d'avoir lu ce nom et entendu ce prénom, ou l'inverse, hier. Hier, il en était certain. Un double souvenir furtif. Pétard se tut enfin. Julot respira. Mais dans la seconde qui suivit, un brouhaha sourd fit vibrer les vitres du couloir. Pétard quitta la pièce, énervé, claquant la porte. Après moins de 10 minutes de jeu, l'OM venait de prendre un but contre les Roumains. Le lieutenant Elfassi semblait s'en foutre. Alpha semblait consterné. Pour la première fois dans la pièce, le calme s'imposait. Ryan tendit un gobelet à l'inculpé dans un geste de conciliation.
« Je vous sers un café, Mal ?»
Soudain, sans qu'il comprenne quel mécanisme l'avait enclenché, Julot fit la connexion. La lumière apparut, aussi simple que s'il avait appuyé sur un interrupteur. Sauf que le chercher à tâtons aurait pu lui prendre des heures. Mal. Il avait déjà lu ce nom. Très vite, Julot baissa les yeux sur son ordinateur, cliqua sur le dossier Valioni, puis le sous-dossier Bambi 13. Un nouveau double clic, il ouvrit le fichier texte dans lequel il avait téléchargé la liste de toutes les Bambi Y, Bambi I, recensées dans le département des Bouches-du-Rhône. 233 noms, 192 si l'on éliminait les femmes trop âgées ou les gamines. Il fit défiler la liste. Il avait passé des heures hier à détailler chaque nom, recherchant des photos ou le moindre indice sur chacune. Un travail qu'il était loin d'avoir achevé. Bambi Lefebvre. Bambi Lutz. Bambi Mâle. Bingo, jubila Julot. L'une des 192 Bambi des Bouches-du-Rhône portait le même nom de famille que cet ado cuisiné par ses collègues. Julot continua de surfer frénétiquement, mais aucune photographie de cette Bambi mâle n'était accessible sur le net. il ne dénicha qu'une date de naissance sur LinkedIn, 27 mars 1995. 21 ans, ça correspondait. Et si la fameuse Bambi 13, la tueuse présumée, appartenait à la famille d'Alpha Mal, une parente, une cousine, sa sœur peut-être. Le lieutenant essaya de calmer son cœur qui s'affolait. Cela ne signifiait absolument rien. Bambi Mal n'avait pas davantage de chance d'être cette Bambi 13 que n'importe laquelle des 191 autres références. Le fait que son frère ou son cousin soit interrogé dans leur bureau n'y changeait rien. Sauf que Julot ne croyait pas aux coïncidences. Et surtout, le lieutenant continuait de se laisser guider par cette étrange intuition. « Le métier qui rentre », aurait ricané Pétard. Il n'avait pas été vérifié par hasard ce nom de famille, un nom parmi les 191 autres. Il avait spontanément associé ce prénom, Alpha, à celui de Bambi. Comme si son inconscient le lui avait dicté, comme si un second souvenir, plus ancien, se cachait derrière le premier.
Ryan, demanda Julot, tu peux me passer son dossier ?
Le lieutenant lui tendit les quelques feuillets imprimés contenant l'état civil et un bref CV du garçon. Pour la première fois, Alpha remarqua le lieutenant Flores et l'examina d'un regard inquiet. Cela renforça encore la conviction du lieutenant. Les gars de la brigade avaient bien bossé, même si Alpha ne possédait aucun casier. Aucun diplôme non plus. Études arrêtées à 16 ans, aucun boulot connu depuis. Aucune interpellation. Le dossier était heureusement étayé par d'autres détails. Alpha était le cadet d'une fratrie de 3 enfants. Un petit frère, Tidiane, 10 ans. Une grande sœur, Bambi, 21 ans. Sa sœur. Gagné. Le lieutenant Flores leva les yeux, le cœur toujours battant. Alpha Mal le fixait d'un regard froid, impénétrable, sans peur cette fois, ou bien l'ado avait rapidement appris à la dissimuler. Julot hésita à l'interroger frontalement. « Tu as des photos de ta sœur ? Tu en as sur toi ? Sais-tu où elle était la nuit dernière ?» Il se retint. C'était trop tôt. Il devait en discuter avec Pétard auparavant. Il devait trouver des photos de Bambi Mal, l'identifier formellement. Ensuite, si son instinct ne l'avait pas trompé, on pourrait cuisiner ce gamin. Il fallait simplement ne pas le laisser s'échapper dans la nature. Alors que Pétard entrait à nouveau dans la pièce, Julot lut quelques lignes supplémentaires du dossier d'Alpha Mal. Responsable légal, Leili Mal. Domicilié à Port-de-Bouc, bâtiment H9. Les aigues douces. Pas de père ? Port-de-Bouc. Le cœur de Julot cognait de plus en plus fort. Difficile d'imaginer une nouvelle coïncidence.
« J'ai négocié pour toi, mon grand », annonça Pétard en s'adressant à Alpha. « Si tu ne traînes pas, tu vas pouvoir voir la fin du match avec des copains. J'ai pas pu te trouver une chambre particulière, mais au moins il y a la télé. Ton carrosse est prêt. » Une petite nuit en prison te fera du bien.
Même si Julot ne connaissait pas encore tous les arcanes de la justice et de la police, une telle incarcération, sans le moindre début de preuve, lui semblait parfaitement illégale. Personne ne protesta pourtant. Ni Ryan, ni Alpha Mal, ni lui. Après tout, cet Alpha Mal semblait vouloir tout mettre en place pour se faire coffrer. Les policiers sortirent de la pièce, et Julot délaissa enfin son écran. Dehors, la nuit commençait à tomber. Ses yeux se posèrent sur le poster de l'étang de Vacarès et les centaines de flamants roses serrés dans les roseaux de la Camargue, telle une armée de supporters pastels, bien plus sympathiques à ses yeux que les autres, les vrais, les bruyants en bleu et blanc. Julot sentait qu'il s'avançait vers une nouvelle nuit d'insomnie. L'affiche lui donna envie de quitter la chaleur étouffante de la ville. Un autre nom, sur lequel rien ne semblait transpirer, continuait de voltiger dans sa tête. Vogelzug. Oiseau migrateur. Peut-être que les échassiers seraient plus bavards que son chef ? Quelques minutes plus tard, Julot allait couper son ordinateur lorsqu'une alerte clignota. Nouveau message. Mohamed Toufik, Le spécialiste de l'histoire africaine lui répondait déjà. « Rendez-vous demain matin, centre Al-Isla. » Le centre Al-Isla ? L'école coranique d'une mosquée ?
Pétard allait adorer.